Il s'est lancé dans un pari risqué, celle de créer son jeu de société. Pour accomplir cette difficile mission, il a créé une émission, c'est Ludovision.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ludovision. Alors déjà un grand merci pour vos retours sur l'idée, ça m'a encore beaucoup conforté dans le projet. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, notamment de créativité, puis des règles du jeu. Pour pas que ce soit trop indigeste, je vais diviser tout ça en plusieurs épisodes, qu'on puisse prendre le temps de tout voir. Donc on part pour un gros tunnel d'environ 3 épisodes pour parler de tout ça. Je voulais parler de créativité, mais pourquoi ? Je documente la création d'un jeu, et je me suis rendu compte que le processus initial, j'en parle pas beaucoup. Déjà, la créativité, tout le monde l'a. Ça se nourrit, ça se travaille. C'est quelque chose que je fais, moi, depuis environ 15 ans, depuis que je suis ado, en fait. Et c'est quelque chose où il faut être curieux. Voilà, c'est avant tout, je pense que la créativité, c'est avant tout de la curiosité. Essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Quand on voit, ou qu'on écoute, ou quand on joue à quelque chose, ça vaut le coup de prendre un peu de recul et de se renseigner à pourquoi on a aimé ou non, comment ça a été fait, voir aussi le processus créatif de plein de gens, parce qu'on est tous différents là-dessus. Je sais que moi, j'aime beaucoup les documentaires sur les chanteurs, les chanteuses. Je trouve ça vraiment hyper inspirant. D'ailleurs, je conseille particulièrement celui sur Billie Eilish, qui est sur Apple TV, ou même celui de Vald, qui est pour la création de son album XE, qui est disponible gratuitement sur son YouTube. Mais voilà, il faut faire attention, il ne faut pas trop intellectualiser. Je trouve que ça, il faut continuer à kiffer ce qu'on fait. Moi, je dis souvent que je mets souvent l'émotion avant la technique, parce qu'en fait, moi, je suis un gros kiffeur, grosso modo. Gros, on peut dire bon public, hein, d'ailleurs. Mais voilà, moi, tant que je kiffe, je kiffe. Qu'il y ait des défauts ou autre, tout ça, si j'ai kiffé, j'ai kiffé, quoi. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à kiffer les choses. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est de moins en moins facile, je trouve, notamment avec les réseaux où c'est toujours très clivant, souvent. On va souvent aller vers des choses un peu plus des extrêmes. Soit on a adoré, soit on a détesté. Il n'y a pas trop de juste milieu et je trouve ça un poil dommage. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de créer un jeu, en fait. Moi, tout ce que je veux, c'est c'est kiffer. N'hésitez pas à kiffer. Moi, c'est ce qui me fait faire un jeu, c'est le mojo numéro 1, c'est que je veux mettre dans le jeu, c'est que ce soit un jeu qui fasse kiffer. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour revenir à la créativité, néanmoins, ça demande du cadre. Il y a un mythe comme quoi, quand on est créatif, on a une idée d'un coup qui fuse, on est dans les chiottes, bam, on a une idée légendaire. Et ça marche pas comme ça. Les idées, ça se nourrit. Tout ça, cette légende, ça va être 0,1% de la population, et encore, si vraiment ça existe. Du coup, je vais parler de mon cas, de comment moi, je crée des choses, que ce soit le jeu, ou dans mon cadre de mon travail, ou même de général, de toutes les idées que je peux avoir, qui potentiellement n'aboutissent à rien, mais voilà, j'ai des idées, ça arrive. On a tous des idées, je pense. Faut juste se dire que ça peut être des bonnes idées. Et souvent, une idée est une bonne idée, évidemment. L'idée de base, effectivement, j'ai quand même sur le tas. Mais pour avoir des idées, ça part d'une envie. En général, quand on pose à quelque chose, c'est qu'on a une envie ou quelque chose qu'on a vu avant. Ça vient pas de nulle part, l'idée. Je suis pas quelqu'un qui connaît le cerveau humain, loin de là. Mais voilà, les idées, ça vient de quelque part. Là, actuellement, j'ai envie de faire un jeu. Du coup, j'ai en coin de la tête l'idée, je veux faire un jeu de société. Très bien. Et si j'ai aimé faire un jeu, c'est que j'aime jouer, en général. Je pense que si on a envie de faire de la musique, c'est qu'on aime écouter de la musique. Et du coup, on est influencé parce qu'on regarde, on écoute, on joue, etc., etc. On est forcément très influencé par tout ça. C'est ce que j'ai dit dans les précédents épisodes. J'adore les joueurs recachés, j'adore les deck building, j'adore les TCG. Donc forcément, je suis influencé par tout ça et ce qui me mène à faire un jeu de deck building finalement aujourd'hui. C'est quelque chose qui est important. Mais voilà, je ne réfléchis pas non plus à ça. Tout le temps, je suis pas tout le temps en mode 24 heures, 20 sur 24, parce que forcément mon temps de cerveau il est pas à 100% dessus, c'est normal. Personnellement, j'ai besoin de moments où mon cerveau ne fait que ça, ou presque, grosso modo. Donc effectivement, sous la douche, quand je promène mon chien en écoutant de la musique, en voiture, ou même quand je discute avec des gens, des fois mon discussion c'est même plus de la réflexion, c'est en mode ça tilt, d'un coup ça connecte, mais parce que je l'ai toujours au coin de la tête. Donc voilà, c'est quelque chose où je pense qu'au début, c'est un peu de travail et après, ça vient peut-être tout seul. C'est possible. Mais voilà, la créativité, je pense qu'il faut se mettre en tête qu'on est tous créatifs. C'est hyper important. On la nourrit tous plus ou moins et on est tous plus ou moins curieux. Et c'est la curiosité qui va faire beaucoup. Mais en fait, ça, c'est juste une idée. C'est là tout ce qu'on va voir plus tard, les règles du jeu. Si j'avais juste eu l'idée et que je les ai notées, ça aurait été vachement plus trop simple. C'est... Ou alors je suis vraiment un génie. Peut-être que Richard Garfield, il a créé Magic, il l'a noté sur un bout de serviette et le jeu était déjà parfait. J'en doute énormément. Mais voilà, les idées, vraiment, ça, bah, ça se nourrit, tout simplement. Et surtout, ça demande, comme on l'a dit plus tôt, du cadre. Bah, du coup, toutes ces idées, je l'ai déjà dit, je note tout. Mais je note tout, 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 tout. Dès que j'ai une idée, bam, moi, je le fais sur un téléphone, je sors et je note. Voilà, c'est l'idée. Et pas juste idée, j'essaie quand même de l'écrire, que je la comprenne plus tard. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc voilà, je note toutes mes idées. Mais après, il faut les rendre viables. Parce qu'une idée, ça reste qu'une idée. Et du coup, il faut la peaufiner. Et pour ça, je me pose et je me mets vraiment en condition de travail. C'est vraiment simple, c'est ça qu'il faut. C'est on se pose et on se prend 2 heures, 3 heures, 8 heures, 10 heures, autant de temps que vous voulez. Mais vous allez dessus. Donc je me pose. Moi, je fais ça au moins une fois par semaine pour éviter d'avoir trop de choses sur le côté, surtout en ce moment avec le jeu où du coup il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais voilà, quand je suis dans un projet créatif, je me pose, en tout cas là, dans le cas du jeu, je me pose une fois par semaine et je cadre pour ce projet-là. Du coup, je développe les idées et je me force surtout à réfléchir proprement et je m'auto-confronte. Parce qu'une idée, il faut la mettre aussi dans une... Sur le coup, ça peut être bien, mais il faut la mettre en perspective avec toutes les autres idées. Donc je reprends mes notes. Je les trie, je les classe, je mets en grande famille. Par exemple, si c'est pour je sais pas, du combat dans le jeu, là je prends l'exemple du jeu, mais du combat, du matériel, de l'idée de gameplay pur, des règles, etc. etc. Voilà, c'est, tout ça, je les trie un peu comme ça, histoire de me retrouver un petit peu. Et je les confronte toutes, sans exception. Je les prends une par une. Et pour le jeu, c'est, je me pose deux questions assez simples. De une, est-ce que cette idée, ça va amuser les gens, est-ce que ça m'amuse dans le jeu? Voilà, premier point, c'est le premier point. Si ça passe le test, je me pose la deuxième question. Est-ce que ça va à l'encontre de quelque chose qui est déjà en place? Si en fait j'ajoute, je sais pas, je dis n'importe quoi, un système de plateau où t'avances avec des pions dessus, est-ce que ça va pas à l'encontre du deck building? Bon, pas forcément. Mais voilà, est-ce que ça m'amuse? Pas forcément non plus. Donc voilà, si ça répond à ces deux questions, je valide l'idée. Et ensuite, évidemment, les idées peuvent toujours être écartées derrière. Mais je me dis que du coup, c'est encore bon à encore plus pousser. Et puis après cette idée, on la peaufine. Ce que je dis, on la peaufine et on la remet toujours en question. Mais le plus dur, c'est vraiment de verrouiller l'idée. Une fois qu'on se dit que l'idée, elle est verrouillée, en gros, qu'elle reste et que c'est finalement vraiment une bonne idée et qu'elle est exploitable. Parce qu'une bonne idée est potentiellement non exploitable dans le projet en cours. Par exemple, là, j'ai plein d'idées de gameplay potentiellement. Si je refais un autre jeu derrière, c'est pas forcément prévu. Peut-être qu'elles me serviront à ce moment-là. Donc c'est pareil. Je pense que si vous êtes musicien, je sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui disent ça. Ça marche pas pour ce projet, ça marchera pour un autre. Je sais que moi, en créa graphique, ça me sert beaucoup aussi, où un élément peut servir dans d'autres créa graphiques. Donc voilà, n'hésitez pas à ça. Et voilà, le plus dur, c'est de verrouiller la chose. Et justement, en parlant de verrouiller la chose, bah, je commençais un peu à m'éparpiller. Après vous avoir exposé l'idée et avoir exposé l'idée à mon entourage, et bah, j'ai voulu commencer à écrire les textes des cartes, à designer le visuel des cartes, à dessiner des personnages, etc., etc., etc. Et en fait, vraiment, j'allais dans tous les sens. Mais vraiment dans tous les sens. Et du coup, bah, j'avançais plus, en fait. Je faisais tout en même temps, parce que j'avais envie de tout faire, mais du coup, j'avançais pas. Et je me suis un peu botté le cul, et du coup, je me suis dit, bah, écris les règles. Même si elles sont pas complètes à 100%, écris les règles, verrouille-les, et puis après, on verra. Parce qu'en fait, le cœur d'un jeu, c'est quand même ses règles. Donc voilà, c'était pas simple, on va y revenir. Mais voilà, la V1 des règles est écrite. Et c'est pour ça qu'on discute ensemble aujourd'hui notamment. Parlons donc un peu des règles. On a un peu fait des détours par ce que c'est la création. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à tout ça. Moi, je suis très ouvert et j'adore pouvoir donner alors des conseils, hein, du calme, hein, qui suis-je pour vous donner des conseils. Mais en discuter ensemble en tout cas, parce qu'on a tous des avis différents et je pense des façons de faire différentes. Donc voilà, n'hésitez pas à ce qu'on discute ensemble. Moi, je trouve ça toujours cool. Mais voilà, parlons donc un peu des règles. Déjà, avant tout, on fait un deck building, on l'a vu. Parlons un peu de ce que est un deck building, parce que tout le monde ne connaît pas, vous êtes peut-être un peu néophyte des jeux de société. Et du coup, merci d'écouter, parce que si vous êtes néophyte, c'est cool. Comment on les décrit Wikipédia? Parce qu'évidemment, c'est sur Wikipédia, c'est forcément vrai, pas du tout. Le deck building, parfois traduit en construction de pioches ou de paquets, est une mécanique de jeu de société, et en particulier de jeu de cartes, où les joueurs disposent d'un paquet de cartes qui leur est propre et qu'ils font évoluer au cours de la partie en fonction de la stratégie qu'ils souhaitent mettre en œuvre. C'est pas si faux. Pour simplifier, en gros, voilà, on va un peu banaliser en une phrase. On pioche des cartes à chaque tour dans un paquet pour améliorer une équipe et après on gagne la partie. Voilà, on fait avancer une partie, on gagne plein de cartes, elles sont de plus en plus fortes et celui qui a en gros l'équipe la plus forte, il gagne. Voilà, en gros c'est le niveau 0 du deck building, c'est ça. En gros, c'est Magic, mais au fur et à mesure, si vous avez déjà joué à Clank, à Unstable Unicorn, etc., etc., c'est ce genre de jeu. Donc voilà, c'est une mécanique de base quand même plutôt simple, mais qui fait des fois plutôt peur, parce que ça peut être des parties un peu longues et tout. Donc voilà. Voilà, c'est ça le deck building. Ensuite, avant d'écrire les règles, je me suis posé une question. Bah, comment on écrit les règles ? Bah ouais, parce qu'en fait, ça semble un petit peu bateau dit comme ça, mais en fait, écrire des règles de société, une fois que j'ai voulu mettre sur le papier, je me suis dit, ok, moi je l'ai en tête. Mais comment je sors ça de ma tête pour que tout le monde me comprenne ? Parce que si vraiment le jeu sort, et quand il sortira, bah je ne peux pas être derrière le dos de tous les joueurs qui vont prendre le jeu pour leur expliquer. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut que ce soit ultra clair, et il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un doute quand on joue à un jeu. C'est, évidemment, il y a des choses quand on joue, on apprend en jouant, ça c'est une certitude, bah c'est comme ça, c'est normal. Mais avoir le doute pendant qu'on joue, vraiment en mode « Ah !» Là, est-ce que vraiment c'est ça que je dois faire ? Ah là, je sais pas. Bon, on va dire que. On va dire que dans les jeux de société, ça me rend un peu fou. Parce que c'est-à-dire qu'on a une chance sur deux de faire une bêtise et c'est pas cool. C'est pas cool parce que bah, c'est-à-dire qu'on déséquilibre le jeu et on est quand même là pour suivre des règles. S'il y a bien un cadre où on peut suivre des règles pour s'amuser, c'est quand même les jeux de société. Donc voilà, comment on écrit des règles de société ? Bah, j'ai été voir plein de témoignages d'auteurs, d'autrices, de jeux de société, etc. etc. Et bah, le seul conseil qu'ils disent, c'est qu'ils en ont horreur. Ils disent que c'est un enfer d'écrire des règles de jeu. Donc déjà, j'étais hyper confiant, c'est cool. Mais j'ai quand même trouvé un conseil qui revenait pas forcément souvent, mais qui était hyper intéressant. Et bah, c'est inspire-toi des recettes de cuisine. Effectivement, n'importe qui peut suivre une recette de cuisine. Parce que c'est hyper didactique. On suit de A à Z et à la fin, on a un petit bon plat pour s'emplir le bidon. Bah, là, ce que je veux, c'est des super règles dans la société pour bien s'amuser. Entre amis. Et bah du coup, ce que j'ai fait, bah déjà, moi j'en lis tous les jours des recettes de cuisine. J'adore cuisiner. C'est cool. Moi, c'est quelque chose que je connais vraiment. C'est une écriture que je connais. Je trouve ça des trucs logiques. Et effectivement, c'est vrai que c'est très bien écrit. Donc bah j'ai passé une semaine à lire des recettes de cuisine et des règles de société. Et je les comparais. Donc tout le monde ne suit pas cette règle, a priori. Pour beaucoup de jeux d'ailleurs. Hein. Je pense que tous les jeux, vous avez le sentiment que les règles sont trop longues par rapport au finalement comment se joue le jeu. Même si je jouais très bien, hein. Je pense notamment à Iki, j'ai deux exemples, moi j'ai Iki et j'ai Unicorn Fever, qui sont deux jeux que j'aime beaucoup, notamment Iki, mais où on passe vraiment une heure à lire des règles pour finalement un système de gameplay, finalement une boucle de gameplay assez simple. Mais voilà, ça se trouve, moi mes règles finales vont durer 10 heures et en fait je mettrai une balle dans le pied, enfin bref. Du coup, j'ai lu tout ça, j'ai mis des parallèles et je me suis fait une petite liste, qui sera exhaustif pour la version finale, mais voilà une petite liste de comment je devrais un peu maqueter et faire mes règles. Tout d'abord, une liste et une description du matériel avec des photos et des schémas si besoin. Parce que c'est vrai que c'est rien de plus frustrant que de lire des règles et de ne pas savoir de quoi on parle. Donc d'abord, on liste le matériel. Comme dans une recette de cuisine, d'abord, on liste les ingrédients. Ok, prépare tout ça. Tu sais, tout est nommé en quantité, etc., etc. Comme ça, derrière, quand tu dois les découper, tu sais exactement ce que tu dois faire, quand tu dois faire cuire, quand tu dois les utiliser. Voilà. Ensuite, aperçu et but du jeu. Dans une recette, en fait, on sait ce qu'on cuisine. Donc effectivement, ça, on le met presque avant la liste, mais je trouve ça dur de se rendre compte d'un aperçu de but du jeu sans connaître le matos. Du coup, voilà. Le jeu, il ressemble à quoi, en gros ? Comme ça, on se met dans le bain, c'est un peu l'entonnoir. Et ensuite, comment on gagne ? Comme ça, on peut tout de suite avoir l'objectif. Il y en a qui mettent ça à la fin, moi je pense que là c'est le mieux. C'est le mieux, voilà. Pour qui je me prends, hein, attention. Hein. Quel grand auteur je suis. Ensuite, les règles générales, avec des conseils, donc les exemples notamment, et aussi un lexique en parallèle. Comme ça, dès qu'on a un peu un terme lié au jeu, ce qui est souvent le cas dans les jeux de société, on a souvent des termes liés à des jeux propres, il est tout expliqué. Ça évite de se dire, ok, on verra plus tard dans le lexique, ou etc. etc. Voilà, là c'est un problème de mise en page. On met le lexique, en gros, des mots-clés directement dedans. Comme quand on, par exemple, je sais pas, on dit découper en julienne. Si vous êtes sur un site internet, souvent c'est cliquable pour aller voir la julienne. Et quand c'est dans un livre de cuisine, il y a des petites annotations, au moins un astérisque pour aller voir ça. Ensuite, on resserre encore plus l'entonnoir avec les cas particuliers, évidemment, et la FAQ. On va pas se prendre la tête avec des cas particuliers quand ça nous arrive pas. L'idée, c'est plutôt, quand on a une question, pendant le jeu, on se réfère à ça. Et ça permet du coup bah, de répondre à nos questions. Donc ça finalement, c'est quelque chose qui va se remplir beaucoup pendant les playtests où il y a des questions qui sont plutôt à des cas vraiment très particuliers. Par exemple, quand tu auras les effets de cartes, est-ce que tel effet de carte annule tel effet de carte, les deux, comment ils se résolvent. Donc voilà, ça c'est ce qui va partir dans les cas particuliers et FAQ. Et enfin, rappel rapide des grandes étapes. Ça peut se faire dans les règles ou dans, par un format de carte. Moi j'aime bien quand on a une petite tête de jeu, grosso modo, dans le jeu de société, pour nous rappeler les tours. Surtout que moi je suis la personne dans les groupes d'amis qui lisent les règles et qui les expliquent. Du coup, à qui on pose des questions. Et j'avoue qu'en cours de jeu, j'aime bien quand les joueurs sont tous un petit peu indépendants, surtout quand c'est l'ordre des tours. Voilà, c'est par pitié, écoutez les règles. Tout le monde s'amusera plus derrière. Donc voilà un peu la liste. Sauf que j'avais un problème, c'est que mon matériel, moi, il n'est pas encore fixe. J'ai commencé à faire des petits ratios et j'ai une idée du matos, mais il n'est pas fixe. Et je ne voulais pas influencer les règles par du matériel qui finalement changerait peut-être beaucoup au fur et à mesure. Donc bah, moi, je n'ai pas du tout fait de liste de description. Et je pense que ça va se sentir sur derrière les règles que j'ai envoyées. Et du coup, je suis passé directement à l'aperçu. Pas forcément très malin, mais voilà. Enfin, moi, j'étais prêt à écrire les règles. Et j'avais effectivement une idée plutôt claire de ce que je voulais en tête. C'était assez précis. Voilà, j'en ai quand même beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Mais j'avais vraiment une idée précise en tête de ce que je voulais. Sauf que pendant qu'on écrit les règles, bah, on a beau dire, hein, voilà, depuis tout à l'heure je vous parle de créativité, je vous parle de confronter vraiment les avis, de confronter les idées, de tout confronter. Et bah, c'est que quand on met sur papier qu'on les confronte vraiment, je pense en fait. Parce que bah, tout, c'est pas passé comme je pensais. J'ai eu beaucoup de surprises, beaucoup d'évolus, de désarroi en écrivant ces règles. Et je comprends pourquoi. Les gens disent que c'est un enfer, en fait. C'était pas un moment très simple, parce que c'est beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments où on se remet en question sur machin, et surtout, c'est beaucoup de moments où on a peur de verrouiller, parce qu'en fait, si je verrouille un truc et que c'est nul, bah, mon jeu entier est nul. Et c'est la spirale infernale où, quand on fait un truc, on se dit « Ah, mais là, du coup, ça veut dire que ça, c'est pas verrouillé, et c'est un jeu de casse-tête horrible. » Là, je dois avouer que c'était vraiment un moment très difficile, où on est seul avec ses idées. C'est aussi moi qui ai fait le choix de faire le jeu seul, hein, donc voilà, j'assume, mais c'était très difficile. Vraiment, c'était un moment très très dur, parce que en fait, ça devient trop réel presque. Je sais que moi, personnellement, ça a été dur là-dessus, parce que ouais, ça devenait un moment très très réel, où bah là, je mets sur papier mon idée, ça y est, elle est concrète. Derrière, je vais en parler à des gens dans un podcast qui vont l'écouter, et du coup, qui vont attendre ça du jeu. Ok, donc là, si c'est nul maintenant, ce sera nul plus tard. Parce que du coup, j'ai pas encore testé le jeu. Ça se trouve, c'est nul en test. Évidemment, ça bougera si c'est nul en test. Évidemment. Mais ça fait peur parce que ça peut se mettre à nu que de faire tester un jeu s'il y a des gens derrière. Donc, j'en suis pas encore là. J'en suis loin des prototypes. Mais voilà, on écrit. Et ces règles, moi, derrière, je savais que je les enverrais à des personnes pour qu'ils les lisent et qu'ils me donnent leurs avis. Et qu'ils prennent du temps pour ça. Donc, en plus, si je leur envoie des choses qui sont nulles, j'aurais perdu du temps. Moi, derrière, j'ai des retours négatifs. Et c'est jamais très agréable d'avoir des retours négatifs. Donc voilà, chaque mot était difficile, chaque mot était pesant, et chaque point était un doute en mode est-ce que vraiment cette phrase est validée. Donc je suis passé dessus plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Je rajoutais des trucs, j'enlevais des trucs, je modifiais des trucs, je rayais des trucs. Je prenais le lendemain, je relisais, ça ne me plaisait plus, je refaisais. Jusqu'à avoir une V1. Mais cette V1, on en parlera dans le prochain épisode. Comme ça, on entend en parler proprement. Et de tout digérer. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ludovision. Merci beaucoup.
Il s'est lancé dans un pari risqué, celle de créer son jeu de société. Pour accomplir cette difficile mission, il a créé une émission.